le journal est présenté par Tara Schlegel. Bonsoir Tara.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. L'Europe tangue après le Brexit voté vendredi au Royaume-Uni. Nous serons à Londres dans un instant où David Cameron a décidé de ne pas prononcer pour l'instant le divorce entre son pays et l'Union européenne. Franck Madvon a écouté cette première allocution du chef du gouvernement britannique depuis le référendum. Nous irons également à Berlin qui reçoit Paris et Rome pour discuter toujours des suites du Leave. Pour l'instant, Angela Merkel n'a pas l'air d'être sur la même ligne que ses hôtes. Et puis en France, le référendum de Notre-Dame-des-Landes qui relance aux yeux du gouvernement le projet d'aéroport. Le Premier ministre veut aller très vite, mais sur le terrain les choses sont encore compliquées, nous dira Violette Voldoir. Enfin, la prise de Fallujah en Irak et la défaite de Daesh, c'était une bataille majeure pour la coalition et pour le régime irakien. Explication d'Éric Biegala. 18h20 du Grain à Moudre, ce sera avec vous Hervé Gardette.
Le Big Data est-il la pierre philosophale du marché de l'emploi? Nous allons en parler avec Catherine Pou de Pôle Emploi, avec Philippe Deljury de Météo Job et avec le chercheur Olivier Erched.
À tout à l'heure. Il refuse donc de le faire et il laisse ce soin à son successeur. David Cameron, le Premier ministre britannique, ne va pas à ce stade enclencher la procédure de divorce en invoquant l'article 50 du traité de Lisbonne. Il laissera probablement donc ce soin à son successeur qui n'a pas l'air lui-même très pressé pour l'instant. En tout cas, le chef du gouvernement s'est exprimé pour la première fois depuis le référendum de vendredi dernier et depuis la victoire du Brexit qui constitue pour lui, pour David Cameron, un échec personnel. Bonsoir Franck Madvon.
Bonsoir Tara.
Vous êtes en direct de Londres où les partis sont sortis extrêmement divisés du vote de vendredi. Je rappelle donc 52% pour le camp du Leave. Et pourtant, personne n'a l'air de vouloir que le Royaume-Uni coupe les ponts rapidement avec Bruxelles, à commencer par David Cameron lui-même.
Oui, David Cameron, qui a donc été très clair cet après-midi devant la Chambre des communes, il n'activera pas en effet l'article 50 et c'est ce qu'il dira demain aux dirigeants de l'UE réunis à Bruxelles. Il estime que la décision, vous l'avez dit, doit revenir au prochain Premier ministre et le camp du Leave est sur la même longueur d'onde. Boris Johnson, qui pourrait succéder à David Cameron, a lui aussi redit aujourd'hui qu'il ne fallait pas se précipiter. Alors certains s'interrogent quand cet article 50 sera-t-il activé ? Il est fort possible que des élections générales anticipées soient convoquées après la désignation d'un nouveau leader du parti conservateur, auquel cas ce scrutin pourrait s'apparenter à un nouveau référendum sur l'UE. La situation est en tout cas très complexe. David Cameron a toutefois bien précisé que la volonté du peuple devait être respectée. Il a aussi annoncé la création d'une unité de hauts fonctionnaires en charge des négociations de sortie avec l'UE. Sur un autre plan, le Premier ministre a aussi condamné avec force les incidents xénophobes qui se sont produits depuis vendredi au Royaume-Uni. Des immigrés, notamment des Polonais, ont été visés par des insultes racistes ces trois derniers jours. Plusieurs incidents ont aussi été rapportés sur les réseaux sociaux.
Alors du côté des travaillistes, Franck, la crise paraît tout aussi profonde avec une série de démissions au sein même du Labour Party dans l'entourage de Jeremy Corbyn.
Oui, plus de la moitié des membres du cabinet fantôme du Parti travailliste, c'est-à-dire le gouvernement d'opposition dirigé par Jeremy Corbyn, ont démissionné depuis hier. C'est une fronde majeure. Les caciques du Labour veulent se débarrasser de leur leader. La plupart n'ont jamais soutenu Corbyn, jugé trop à gauche. Ils estiment qu'il est en partie responsable du vote pro-Brexit de jeudi. Jeremy Corbyn, c'est vrai, a fait campagne du bout des lèvres pour le maintien dans l'UE. Il avait voté, on s'en rappelle, contre l'Europe, la CE à l'époque au référendum de 75, et pendant cette campagne il s'est souvent montré critique vis-à-vis de l'UE. Résultat, un tiers des électeurs du parti travailliste, notamment en Angleterre, ont choisi le Leave jeudi dernier. Pour le moment, Corbyn refuse de partir. Il rappelle qu'il a le soutien des militants, mais on voit mal comment il pourrait échapper à une nouvelle élection interne. Une motion de défiance sera mise au vote demain parmi les députés du parti travailliste.
Merci beaucoup Franck Madvon en direct de Londres. En attendant que les Anglais se décident, eh bien les bourses qui ont horreur de l'incertitude continuent leur plongeon. Francfort a perdu 3%, Milan 3,94%, Paris un peu moins de 3% et Londres 2,5%. La Banque d'Angleterre se dit toujours prête à débloquer et plus précisément à injecter 250 milliards de livres sterling. À Varsovie, le chef du parti conservateur Jarosław Kaczynski, qui est le véritable homme fort du régime polonais, souhaite un nouveau référendum pour que Londres Londres revienne dans le giron européen. Une pétition circule d'ailleurs outre-Manche. Elle a déjà recueilli presque 4 millions de signatures pour demander effectivement une nouvelle consultation populaire. L'Écosse, quant à elle, songe à un deuxième référendum d'indépendance cette fois, tant cette nation veut rester arrimée à l'Europe. Quoi qu'il en soit, l'Union européenne, qui n'est pas encore officiellement à 27, se réunira demain et mercredi à Bruxelles, mais dès ce soir, c'est à Berlin que se retrouvent François Hollande et Matteo Renzi. Ils sont en train de discuter en ce moment même avec la chancelière Angela Merkel. Officiellement, les trois pays sont sur la même ligne, mais dans les faits, on sent bien une réelle divergence. Cyril Sauvageau nous appelle de Berlin.
Est-ce par prudence ou par calcul politique ? Angela Merkel ne semble pas prête, en tout cas, à couper le cordon avec Londres. La chancelière ne veut pas précipiter les débats. Le Royaume-Uni est un partenaire privilégié. Les négociations doivent se faire dans le respect, a-t-elle dit ce week-end. Une retenue qui tranche avec les propos de François Hollande et de beaucoup d'autres dirigeants européens désireux de divorcer rapidement avec Londres. Même constat sur la relance du projet européen. Les ministres français et allemands des Affaires étrangères ont bien travaillé sur un document commun qui appelle à renforcer l'intégration politique dans l'Union. Mais la chancelière ne semble pas pressée d'y souscrire. Ce projet est une contribution à la discussion, a poliment commenté ce midi son porte-parole. Face au choc du Brexit, Paris et Berlin avancent donc en ordre dispersé, entre d'un côté François Hollande qui appelle à refonder l'Europe et de l'autre Angela Merkel qui met en garde contre les solutions trop simples. Une réunion avant le sommet de Bruxelles ne sera pas de trop pour mettre à plat toutes ces divergences.
Cyril Sauvageau à Berlin. Partons maintenant pour l'Espagne, où le Premier ministre sortant, Mariano Rajoy, a remporté son pari, mais il est loin d'être capable de former le prochain gouvernement. Son parti conservateur gagne 14 députés, il lui en manque toujours 39 pour obtenir la majorité absolue. En face, les socialistes ont perdu 5 sièges, mais ils sont toujours la deuxième force du pays, devant Podemos, qui espérait bien se hisser à ce niveau-là. La gauche radicale passe de 69 à 71 député, mais ce n'est pas la victoire dont rêvait Pablo Iglesias. Reste donc à savoir qui va gouverner l'Espagne après 6 mois de paralysie politique. Pour l'instant, Mathieu de Taillac, vous êtes à Madrid. Pour l'instant, le Premier ministre sortant cherche donc activement des soutiens.
Mariano Rajoy, a-t-il dit cet après-midi, recherche des partis modérés pour assurer la stabilité du gouvernement qu'il entend présider. Modéré, c'est une façon d'exclure Unidos Podemos, la coalition de la gauche radicale et des néo-communistes qui de toute façon n'entendaient pas l'aider à rester au pouvoir. Restent plusieurs candidats, Ciudadanos d'abord, les centristes et les plus proches idéologiquement. Leur chef de file, Albert Rivera, a dit en campagne qu'il voterait contre une investiture de Rajoy, mais ce ne serait pas la première fois que Rivera change d'avis. Dès aujourd'hui, le centriste a dit n'opposer aucun veto. Ciudadanos a obtenu 32 sièges, n'est pas assez pour compléter la majorité de droite. Rivera dit vouloir entamer au plus vite des conversations avec le Parti Populaire, le PP de Rajoy, mais aussi avec le Parti Socialiste, le PSOE. Les socialistes, justement, sont au centre du jeu, ils sont divisés. D'un côté, les porte-paroles officielles qui disent de façon plus ou moins claire qu'ils ne s'abstiendront pas, qu'ils voteront contre une investiture de Rajoy, sans préciser ce qu'ils feraient si le PP présentait un autre candidat. De l'autre côté, les barons socialistes, les présidents régionaux, celui de l'Estrémadure a déclaré ce matin que Rajoy devrait être reconduit, que les électeurs avaient envoyé le PSOE dans l'opposition. Les socialistes réunissent le 9 juillet leurs instances de direction. Les tractations s'annoncent longues en Espagne. Elles n'ont pas encore commencé.
Mathieu de Taillac à Madrid. L'autre grand titre de l'actualité, c'est la victoire des forces irakiennes à Fallujah. Cette ville était symbolique à plus d'un titre pour le régime irakien. Toute proche de Bagdad, à une cinquantaine de kilomètres seulement, c'est là que se sont installées en janvier 2014 les forces de l'organisation État islamique. Fallujah était l'un des principaux fiefs de Daesh en Irak. Bonsoir Eric Bigala.
Bonsoir Tara.
La reconquête avait débuté le 23 mai dernier. Eric, elle est presque achevée. Cela dit, on se bat encore un peu dans les faubourgs de Fallujah.
Oui, les forces militaires irakiennes sont toujours en train de nettoyer les tout derniers quartiers au nord-ouest de Fallujah où se trouvent encore quelques dizaines de djihadistes. Certes, ceux-ci ne se trouvent plus dans l'agglomération proprement dite, mais dans les faubourgs, en zone rurale et aux abords de la longue boucle du fleuve, de l'Euphrate. La ville elle-même est considérée comme reconquise depuis hier à la mi-journée. Et le Premier ministre, Haider al-Abadi, a d'ailleurs pu y parader armé du drapeau irakien. Fallujah, c'est la ville la plus importante reprise aux djihadistes de l'État islamique. C'est également la première que ceux-ci avaient conquise en janvier 2014, 6 mois avant de prendre Mossoul, Sinjar, Tikrit ou Ramadi. Toutes ces cités ont depuis été reprises par les Irakiens. Avec Fallujah aujourd'hui récupérée, il ne reste plus en fait que Mossoul, de loin la plus grande agglomération contrôlée par l'État islamique, puisqu'elle comptait 2 millions d'habitants avant-guerre et qu'il en resterait environ la moitié en ville. C'est aussi et surtout la principale ville sunnite d'Irak. À terme, la défaite militaire guerre des djihadistes en Irak ne fait guère de doute, mais ce qui pose encore question, c'est la capacité du gouvernement irakien à transformer ces défaites des djihadistes en véritable victoire pour lui. Et pour ce faire, il faudra qu'il prouve qu'il peut récupérer et surtout tenir une ville d'importance comme Fallujah, 300 000 habitants avant-guerre, une ville sunnite, sans que la population ait à souffrir d'éventuelles exactions de la part des milices chiites, souvent promptes à se venger sur les civils sunnites de ce que les djihadistes ont imposé aux populations chiites. Sur les plus de 80 000 civils sortis vivants de Fallujah, les autorités irakiennes et les miliciens détiennent encore près de 7 000 personnes, des hommes en très grande majorité, tous soupçonnés d'être des membres de l'État islamique ou de l'avoir soutenu.
Merci Eric Biegala, l'organisation État islamique qui évidemment ne lâche pas prise dans la région. Le Liban vient ainsi de subir 4 attaques. Bonsoir Laure Stéphane, vous êtes à Beyrouth.
Bonsoir.
Alors ces attaques ont tué 5 personnes, Laure, dans un village qui est tout proche de la frontière syrienne.
Oui, et jusqu'ici les attaques dans le village de Kar, un poste frontière libanais, n'ont pas été revendiquées, mais les médias locaux soulignent que le mode opératoire est celui utilisé par les groupes djihadistes, des kamikazes bardés de ceintures d'explosifs, des détonations à quelques minutes d'intervalle. Al-Manar, la chaîne de télévision du Hezbollah engagée aux côtés de Bachar al-Assad en Syrie, accuse le groupe État islamique d'avoir commis les attentats de Kar. Le I a déjà frappé le Liban il y a quelques mois. C'est après avoir entendu la première explosion en pleine nuit que des habitants de Kar sont descendus dans la rue. Ils y ont vu les autres kamikazes avant que ces derniers ne se fassent à leur tour exploser. Alors l'armée qui est en charge de la sécurité a condamné des actes terroristes. Elle n'a pas dit si les assaillants étaient déjà présents au Liban ou s'ils s'étaient infiltrés depuis la Syrie. Une interrogation reste aussi ce soir, celle de savoir si Kar était bien la cible des attentats ou si les kamikazes se sont fait exploser précipitamment.
Il faut quand même ajouter, Laure, que ce village se sent menacé par le conflit syrien qui est tout voisin depuis plusieurs mois.
Tout à fait. C'est à cause de cette menace, dit-on à Kar, que des habitants se sont organisés depuis plus de deux ans maintenant en groupe d'autodéfense. Ils effectuent des rondes de nuit. Des résidents n'ont pas hésité à tirer l'année dernière face aux assaillants. Il faut rappeler aussi que Kar, qui se trouve dans la Bekaa, l'une des régions libanaises les plus exposées aux répercussions du conflit syrien, est bordée par des montagnes. Dans ce massif, l'armée affronte sur un front de plusieurs dizaines de kilomètres des groupes de djihadistes syriens de l'EI ou du Front al-Nusra. Et le son des combats retentit parfois jusqu'à Kar. Ce soir, les habitants réclament un déploiement plus important des forces de sécurité dans le village.
Merci beaucoup, Laure Stéphane, en direct de Beyrouth. On reste dans cette même région pour acter la réconciliation toute récente de la Turquie avec Israël. Les deux pays étaient brouillés depuis 6 ans, depuis qu'un navire turc en route pour briser le blocus imposé à Gaza avait subi l'assaut de forces israéliennes. 10 militants étaient morts. Ankara vient d'obtenir un dédommagement, 18 millions d'euros. Camille Lafrance, vous êtes à Istanbul. Au-delà de cette épisode douloureux, que peut gagner la Turquie à ce réchauffement diplomatique?
Pour Ankara, il s'agit d'abord de renforcer son influence régionale et de s'imposer comme un acteur incontournable. Or, son aura est affaiblie par une série de dissensions, relations dégradées avec l'Égypte d'abord, puisque la Turquie soutenait l'islamiste Mohamed Morsi, renversé par Abdel Fattah el-Sissi, actuellement au pouvoir. Des relations extrêmement tendues également avec la Russie, depuis qu'un de ses avions a été abattu en novembre dans le ciel turc, alors même que Moscou continuer à jouer un rôle de terrain en Syrie. La Turquie se sent par ailleurs menacée par les forces kurdes qui évoluent chez son voisin syrien avec le soutien de Washington. Dans ce contexte, il s'agit donc de ne pas multiplier les inimitiés. Les deux pays ont aussi des intérêts communs contre l'Iran, ennemi d'Israël et rival régional de la Turquie. Leurs intérêts sont par ailleurs économiques. Les deux pays pourraient notamment renforcer leur coopération d'exploitation de gaz en Méditerranée. Les Turcs ont par contre cédé sur l'une de leurs demandes, la levée du blocus israélien sur la bande de Gaza, mais ils pourront y acheminer de l'aide humanitaire. Ankara s'impose également comme un intermédiaire diplomatique avec le Hamas, autorisé à se réunir sur son territoire.
En France, l'actualité est dominée par le casse-tête de Notre-Dame-des-Landes. Après le référendum et les 55% pour le oui en faveur donc d'un nouvel aéroport, Manuel Valls a promis de démarrer les travaux dès l'automne. Même son de cloche chez Ségolène Royal qui estime que le problème a déjà duré beaucoup trop longtemps. Bonsoir Violette Voldoir.
Bonsoir Tara.
Pourtant, n'en déplaise à la ministre de l'Environnement et au Premier ministre, eh bien, il ne va pas être simple d'engager très vite ce nouveau chantier.
Oui, le signe que ce n'est pas si évident, c'est qu'il y a une bataille de calendrier entre pro et anti notre Notre-Dame-des-Landes. Chez les pros, Aéroports, on estime que plus rien ne s'oppose désormais au début des travaux. Même pas la procédure d'infraction ouverte par la Commission européenne il y a 2 ans maintenant et qui souligne l'absence d'une étude environnementale globale, position défendue par le sénateur UDI de Loire-Atlantique, Joël Guerriau.
Pourquoi attendre? Rappelons que le gouvernement a lui-même d'ailleurs, et c'est là le paradoxe, à 4 reprises signé une autorisation de démarrage de travaux. Il faut arrêter, on ne peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui, on est dans une situation où on peut démarrer. Parce que les questions posées par l'Europe, ça ne bloque pas le projet, puisque nous avons ce que nous appelons le SCOT, c'est-à-dire le schéma de cohérence territoriale, qui prévoit et qui répond aux compensations demandées par l'Europe. Donc ce sont des garanties, mais ça n'empêche pas pour autant le projet de démarrer. Donc maintenant, il faut y aller.
Sauf que, des élus Europe Écologie Les Verts ont appelé dès hier soir Ségolène Royal et François Hollande à respecter leurs paroles. Yannick Jadot, eurodéputé, et David Cormand, son secrétaire général, rappellent que cette procédure, tout comme d'autres recours concernant les espèces protégées notamment, s'ils ne sont pas suspensifs, ne sont toujours pas tranchés et ne le seront pas avant septembre, voire octobre au mieux. De fait, si l'exécutif est si pressé par les pros aéroports de lancer les travaux dès l'automne, malgré les recours juridiques encore en cours, c'est qu'il devra envoyer des forces de l'ordre aussi nombreuses qu'épuisées pour déloger les zadistes et les autres opposants. Et personne, ni les pro-aéroports, ni le gouvernement, ne veut se retrouver avec un conflit qui s'annonce dur à quelques mois de l'échéance présidentielle.
Merci Violette Voldoir. En bref, le pass Navigo va augmenter comme tous les ans en juillet. Il passera à 73 euros. Pendant sa campagne, la nouvelle présidente de la région Île-de-France avait pourtant promis de ne pas toucher à ce tarif unique. Les radios locales de Radio France était en grève aujourd'hui à l'appel de 7 syndicats, mouvement très suivi, Marie-Pierre Véraud, affirment les représentants du personnel.
Oui, très suivi en effet chez les journalistes des 44 stations locales de Radio France. Le syndicat national des journalistes annonce plus de 90% de grévistes. Pas de matinale dans 37 de ces locales et pas de journaux ce matin dans 40 des Bleus, de la Normandie à la Côte d'Azur, en Bourgogne, Midi-Pyrénées au Grand Ouest. Un film musical accueille les auditeurs. C'est la baisse des moyens qui mobilise les personnels de France Bleu. Suppression de postes, mais aussi baisse de 40% en 3 ans des budgets de remplacement. Ces budgets qui servent à remplacer un journaliste ou un animateur en vacances, en congé maternité ou maladie. Nous sommes obligés de supprimer des émissions et des journaux locaux, dénonce-t-on ainsi à France Bleu Toulouse, ajoutant que l'avenir des salariés précaires se complique encore un peu plus. Les syndicats dénoncent une logique financière et administrative qui met en péril les radios de proximité. Moins de journaux donc, mais aussi moins de reportages sur le terrain, ce qui est la raison d'être d'une radio locale, explique-t-on à France Bleu Hérault. Sur sa page Facebook, une journaliste de France Bleu Nationale écrit aux auditeurs pour leur expliquer les raisons de sa grève. Un travail avec des bouts de ficelle, ce matériel obsolète qui rend l'âme, ces reportages qui se font au téléphone parce que l'on n'a plus le temps d'aller sur le terrain à la rencontre des interlocuteurs. Les locales de Radio France disent être à l'os, alors que des plans d'économie ont déjà réduit les effectifs et les moyens. En 3 ans, dénoncent les syndicats, l'équivalent d'une grosse locale a été supprimée. Ils protestent également contre les journées à rallonge, les contributions accrues au web ou encore le projet de suppression des CE régionaux.
Merci beaucoup Marie-Pierre Véraud. On va terminer par une innovation dans le cyclisme. Une fois n'est pas coutume, innovation pour lutter contre la triche, pour lutter contre le dopage des vélos eux-mêmes. Bonsoir Hélène Masquelier.
Bonsoir Karin.
Alors à 5 jours du début de la grande boucle, eh bien les organisateurs du Tour de France ont conçu des caméras techniques, des caméras thermiques afin de détecter les cyclistes, eh bien tout simplement qui ont trafiqué leur monture.
Oui, et ces caméras thermiques ont pour but de détecter les tricheurs, ces cyclistes qui parviennent à intégrer discrètement un micromoteur dans le cadre de leur vélo pour aller plus vite. Un premier cas de tricherie technologique, comme on l'appelle, avait déjà été détecté en janvier sur le vélo d'une jeune concurrente belge lors des mondiaux de cyclocross. Et ça, l'Union Cycliste Internationale ne veut plus jamais en entendre parler. Les caméras thermiques, un outil efficace selon le président de la Fédération Française de Cyclisme. Le dispositif a été testé ce week-end lors des championnats de France organisés à Vesoul. Alors concrètement, il s'agit de petites caméras portables capables d'analyser la densité des matériaux du vélo en fonction de leurs propriétés thermiques. Par rapport au dispositif utilisé jusqu'à présent, ces caméras ont pour avantage de flasher les vélos tout pendant la course du début à la fin. Les lieux et les dates choisies pour les utiliser sont évidemment gardés secrets, placés sur une moto, en bord de route pour attendre les cyclistes au tournant, ou bien à bord d'un hélicoptère. Tout dépend en fait des moyens qui y seront consacrés. Thierry Braillard, secrétaire d'État au sport, affirme que ce n'est pas le gouvernement qui finance cette innovation, mais sans préciser qui recevra la facture. Peu importe d'ailleurs si cela peut dissuader les tricheurs. Par ailleurs, Thierry Braillard promet de créer un délit pénal d'ici l'automne pour vaincre définitivement la fraude technologique dans le cyclisme.
Merci beaucoup Hélène Masquelier. Le parquet de Paris, en bref, a ouvert une information judiciaire, on vient de l'apprendre, dans l'enquête sur le vol du MS-804. Donc c'était le vol d'Egypte Air qui reliait Paris au Caire et qui s'est abîmé en Méditerranée le 19 mai dernier, causant la mort de 40 Égyptiens et de 15 Français. Cette information judiciaire est ouverte pour homicide involontaire. L'hypothèse de l'attentat avait initialement été émise par l'Égypte, mais elle a cédé du terrain, dit-on, au profit d'un incident technique, enfin d'une hypothèse d'incident technique. Des alertes automatiques ont en effet été émises par l'appareil 2 minutes avant sa chute. Les 2 boîtes noires ont été repêchées, elles sont en morceaux, mais les équipes de recherche estiment que la partie la plus importante des enregistreurs ont été sauvées. Et puis un tout petit mot pour vous dire qu'on a appris la mort de l'écrivain Maurice G. Dantec, qui est mort samedi soir au Canada. Grand écrivain de science-fiction, connu depuis 1993 pour son premier roman, La Sirène Rouge. Il était donc installé au Canada. Zoé Sfès reviendra sur l'œuvre de Maurice Dantec tout à l'heure dans son journal de la culture. Et prochain journal complet de la rédaction, ce sera à 22h avec Stanislas Vazak.